Père Patrick de Laubier, parmi les personnalités que vous avez rencontrées durant votre vie, quelles sont les personnalités marquantes qui ont...
Maritain que j'ai rencontré quand je suis allé le voir, c'est par le cardinal Journet que j'aimais beaucoup et qui était à Genève fréquemment chaque semaine. Et le cardinal Journet m'avait obtenu un rendez-vous. Maritain était à Kopsheim et puis moi je revenais de Russie. On avait préparé tout un scénario et puis moi j'étais pas au courant. Alors je suis arrivé directement dans sa chambre. Il écrivait son dernier livre et puis on s'est mis à parler. Je lui ai montré un papier où un académicien soviétique disait, vous savez, la scolastique, ça paraît une sorte de science obscure et sans aucun intérêt, mais prenez-y garde, c'est au fond fort dangereux. Alors Maritain était ravi de savoir que la scolastique inquiétait les académiciens soviétiques. Et puis il avait épousé une Russe, Raïssa était russe. Alors j'ai rencontré de cette manière Jacques Maritain, qui avait fait un petit compte-rendu de notre entretien, que j'ai retrouvé dans les lettres, parce qu'il a écrit au cardinal Journet, et que j'ai vu justement, j'étais amusé de voir ce qu'il avait pensé de notre entretien. Et puis, j'ai rencontré au passage aussi, mais très rapidement, le père de Lubac, qui en souriant me disait que Journet était le disciple de Maritain. J'ai vu Gilson aussi, j'aime beaucoup l'œuvre de Gilson. Alors pour ses 90 ans, on a voulu lui faire un cadeau. Alors on lui a téléphoné, il y a un ami philosophe qui a dit « Allô, allô, le professeur Gilson ?»« Oui, dit Gilson, il répond avec une humeur qui ne paraissait pas excellente. » Alors on lui dit « Vous avez 90 ans ?» Alors il disait « Vous trouvez que c'est une bonne chose ?» Alors l'autre a commencé à bafouiller en train de dire « Écoutez, je suis philosophe. » Puis il s'est dit « Mais il y en a bien de trop. » Et on s'est retrouvés avec Gilson pendant 3 heures. Et l'année suivante, pendant encore 3 heures, j'ai pu l'entendre et j'ai été émerveillé par cette grande figure. Mais surtout peut-être Journet, qui me paraît être le plus grand théologien du XXe siècle. Je suis à Genève depuis un certain nombre d'années, puisque je suis venu au Bureau international du travail en 1966, puis les événements de 1968 ont créé des chaires de sciences sociales, et je me suis retrouvé, à mon étonnement d'ailleurs, à l'Université de Genève, puisque en France, la sociologie, c'était Durkheim et Marx. Alors moi, je n'avais pas du tout l'intention de parler de Durkheim et Marx à temps complet. Alors j'ai fait un pèlerinage à Fossa Nova et j'ai vu le lieu où saint Thomas était mort en se faisant lire le Cantique des Cantiques. Et alors je suis revenu avec Aristote. On peut dire ça comme ça. J'ai compris que toute une sociologie pouvait se bâtir sur Aristote. Aussi bien la famille, l'économie, la politique, tout. Alors, les étudiants, pendant pas mal d'années, je partageais un cours, nous alternions d'un semestre à l'autre avec un guerrier rose bien connu, Jean Ziegler, avec qui je m'entendais bien. J'avais un livre où je comparais Aristote et Marx. On comprenait assez vite qu'il y en avait un qui avait raison contre l'autre. Mais voilà, donc j'attribue à saint Thomas le fait de m'avoir permis de développer comme ça une approche qui échappait à Auguste Comte, à Durkheim, à Marx. En sociologie, c'était tous des athées militants, vous voyez. Alors que le maître de la sociologie, c'est Aristote.
Vous citez saint Thomas parmi vos maîtres qui vous ont guidé. J'imagine que d'autres grands saints aussi vous ont guidé tout au long de votre parcours.
Chaque saint a ses spécialités. Pour François de Sales, comme c'était l'évêque de Genève, c'est lui qui m'a trouvé un évêque. Voilà. Saint Thomas, lui, il m'a trouvé en sociologie une thématique. Gertrude d'Efta aussi. Gertrude d'Efta, c'est une grande mystique du XIIIe siècle. Et alors un jour, une de ses sœurs, Melchide de Hagborn, dit à Jésus, « Mais pourquoi vous aimez tant Gertrude ?» Parce que le Christ craquait, Gertrude faisait ce qu'elle voulait. Et alors le Christ lui répondait, « À cause de sa liberté. » Ce qui est magnifique. La liberté, vous voyez, c'est le lieu de l'amour. On n'est pas libre, suffisamment libre, c'est ça. Mais elle était libre. Alors, elle faisait ce qu'elle voulait.
Et elle vous a aidé en quoi, Gertrude?
Oh ben, j'aime beaucoup les mystiques et j'ai même une égérie, c'est Gabrielle Bossis, qui est morte en 1950, qui a écrit « Lui et moi », qui est un peu une Gertrude du XXe siècle, c'est une laïque, avec les grands saints, on perd pied. On perd littéralement pied, on n'arrive plus à les classer, on n'arrive plus à les caractériser. C'est des univers développés sans mesure. Ce qui s'est passé, c'est quand même la lecture d'une sainte, Thérèse d'Avila, m'a converti. Enfin, j'étais pratiquant, mais j'ai pris la religion vraiment au sérieux après avoir lu sa vie. Et j'avais retenu « oration », la prière. Ma vocation, c'était vraiment d'être un laïc dans le monde et un laïc où la prière avait un rôle très important. Et donc, je pouvais m'occuper du Christ de manière plus complète que si j'avais eu un tas d'autres activités. Je me suis dit un jour, si j'avais été prêtre et aumônier, j'aurais vu 10 étudiants. Là, il y en avait 300 malheureux qui étaient obligés de m'écouter, de lire mes livres et de subir les examens, quoi. Enfin, vous voyez, donc, et ça a duré pendant 30 ans. Bien sûr, je ne faisais pas les cours sur l'enseignement social chrétien. Aristote venait en première ligne. Mais on comprenait quand même que je m'intéressais à la religion.
Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui pour ces 20 ans qui viennent?
Je suis missionnaire maintenant. Et d'ailleurs, le pape m'avait dit de ne pas oublier la Russie. J'ai trois champs officieux. C'est donc la Russie, la Chine et le Brésil, où je vais chaque année pratiquement. Alors je donne des cours et le reste du temps, bien, j'écris, et c'est vrai aussi, il y a ça. Et à Paris, il y a quelques cours. Sainte-Catherine, je vous dirais que j'ai le bonheur d'avoir le Saint-Sacrement chez moi, dans mon studio, aussi bien à Paris qu'à Genève. C'est pas périphérique, voilà ce que je peux dire. Je pense que le bon Dieu veut que je sois missionnaire, et on sait bien que missionnaire, il y a deux patrons. Il y a François-Xavier qui se promène et Thérèse de Lisieux qui ne bouge pas de son jardin. Toutes les vies, comme le disait Jean Vanier, est une histoire sacrée et imprévisible. Chacun n'a qu'à réfléchir sur comment s'est déroulée sa vie pour se rendre compte que ce n'est pas ce qu'il imaginait, mais ce qu'un autre avait prévu. Maritain disait que l'histoire était un doux mouvement dans le bien et dans le mal. Le mal devient de plus en plus visible et fort, et le bien de plus en plus profond et grand. Et alors nous sommes les témoins d'une sorte d'accélération à tous égards. Moi, dans mes voyages, je vois comment, quelle imposante bataille se livre sous nos yeux, là, où l'enjeu, ce sont les âmes. Et de ce point de vue-là, là, je vais faire un petit commentaire spirituel. On devrait provoquer la jalousie même des saints, parce que nous, les saints, ils sont fixés maintenant. Tandis que nous, on peut, par notre liberté, comme Gertrude, on peut présenter une surface de liberté un peu plus grande pour que l'amour puisse aussi y venir. Bien sûr, il y a un tas d'inconvénients, on peut chuter, et même on peut dire que plus on reçoit de grâce, plus on devient vulnérable. Quand vous faites de la montagne, si vous tombez de 50 cm, vous ne faites rien. Si vous tombez de 8 mètres, vous vous cassez la colonne vertébrale. Le bon Dieu prend des risques, à condition qu'on se confie à lui. Eh bien, l'Église catholique, c'est quelque chose. On sent qu'il y a de grands enjeux. Le mal devient de plus en plus profond, pas simplement le mal extérieur. Au fond, on pourrait dire que la situation actuelle, ce qui est le plus préoccupant, sont les catholiques. C'est nous qui dormons le plus souvent. Je trouve que les catholiques ne prient pas beaucoup, d'abord. Et ensuite, nous, les prêtres, on regarde très loin le curé d'Ars, mais l'activité principale du prêtre, c'est de prier. À Nazareth, qu'est-ce que faisait Joseph? Qu'est-ce que faisait Marie? Ils regardaient Jésus. Le grand enjeu aujourd'hui, c'est la prière. Or, les catholiques, c'est une généralisation que je vais dire là, ne prient pas assez. Et quand on ne prie pas, pourquoi? Parce que le christianisme, c'est quoi? C'est le Christ. On n'est pas la religion du livre. Nous, on est la religion d'une personne, de Christ. Notre amitié avec le Christ, eh bien, elle s'entretient par la prière. Mais nous sommes tous menacés par là. Et je vous dis, je pense même qu'en recevant des grâces, on devient plus vulnérable. Et on oublie d'évangéliser l'affectivité. Et l'affectivité doit être évangélisée par les trésors de la mystique catholique. Je vais vous donner un dernier exemple. Je m'étais plongé il y a 3 jours dans Saint-Augustin, et notamment sur les rapports de la grâce et de la liberté. Et je vous assure, ça ne passait pas. Saint-Augustin, vraiment, il ne donne pas, à mon avis, la solution. Et je suis tombé sur un petit livre de Marie Sevret. Ça s'intitule « Divins appels ». C'est paru en 1966 avec une préface d'un évêque. Et c'est vrai que c'est le Christ qui parle. Et alors, il donne sur ces rapports entre la liberté et la grâce une réponse tellement lumineuse, limpide, que je me suis dit, les 2000 pages d'Augustin comparées à ces trois petits chapitres, c'est rien du tout. Et c'est une mystique, c'était une femme d'ailleurs, une mère de famille, qui a écrit, elle est morte en 66, Marie Sevray, ou alors Gabriel Bossis, lui et moi aussi. Alors où le Christ dit, la grâce, qu'est-ce que c'est ? La grâce, c'est moi. Et où il ajoute, toi et moi, on peut tout. Ça vous remplit un dictionnaire de spiritualité.